Bonjour à tous. Donc, ce colloque consacré aux problèmes et aux figures de la mondialisation est une initiative de l'Institut du monde contemporain du Collège. L'Institut du monde contemporain, regroupant à la fois les chaires d'histoire contemporaine du monde arabe d'Henri Laurence, de théorie économique et d'organisation sociale de Roger Guenry, de rationalité et sciences sociales de Elster, d'anthropologie de la nature de Philippe Descola, d'études juridiques et comparatives et internationalisation du droit de Mireille Delmas-Marty et d'histoire moderne et contemporaine du politique de moi-même. Il y aura d'ailleurs d'autres manifestations de l'Institut du monde contemporain au premier semestre 2008. Il y aura notamment une journée qui sera consacrée à la sagesse collective, organisée par la chaire de Yon Elster avec Hélène Landemort, et puis un colloque consacré aux questions du terrorisme qui sera animé par Mireille Delmas-Marty et Henri Laurence. Cette journée est la première journée donc d'un cycle de deux jours. Demain, nous parlerons des biens publics mondiaux, qui aujourd'hui devient des thèmes évidemment les plus discutés, que ce soit actuellement même à Bali ou en général dans les organisations internationales. Et on voit à quel point la nécessité d'avoir un cadre intellectuel d'analyse de ces questions-là est nécessaire. Aujourd'hui, nous commencerons à réfléchir sur la mondialisation à partir de la question de la gouvernance et de la légitimité, à la fois dans le domaine du droit, de l'économie et de la politique, pour tenir compte tout simplement d'un facteur essentiel. C'est le fait que les principaux concepts économiques, les institutions politiques et les notions juridiques qui ont été abordées pour penser l'État-nation, pour penser la régulation politique, pour penser l'organisation économique, ne sont plus adaptées aujourd'hui à un ordre international en pleine mutation. Ordre international qui connaît une grande diversité d'institutions, qu'il s'agisse d'assemblées générales d'État comme l'ONU ou d'organisations spécialisées comme l'OMC ou le BIT, ou bien sûr les cours de justice. Et toutes ces institutions sont actuellement contraintes de préciser leur rôle, de reconsidérer leur mode de fonctionnement et de refonder leur légitimité. Et le but de cette journée est d'essayer de procéder à un premier état des lieux et des questions dans une perspective qui sera comparative et qui aura pour caractéristique de faire dialoguer des praticiens et des théoriciens. Et donc, nous aurons aujourd'hui trois sessions. Une première session qui aura davantage une dimension juridique, avec Mireille Delmas-Marty et Jean-Arnaud Mazer, qui vont prendre la parole tout de suite. Et ensuite, nous parlerons des problèmes plus politiques de la gouvernance, avec Pascal Lamy, qui nous fera partager son expérience et la différence d'expérience entre les responsabilités qu'il a eues au niveau européen et celles qu'il a maintenant comme directeur général de l'OMC. Et je présenterai moi-même un certain nombre de réflexions sur les transformations de la légitimité dans les institutions contemporaines. Et cet après-midi, avec Roger Guenry et Claude Henry, sur le programme, il y a un changement, c'est que François Bourguignon, qui a été le chief économiste de la Banque mondiale et qui dirige maintenant l'École d'économie de Paris, interviendra demain après-midi. Et c'est Claude Henry, qui est directeur de recherche à l'École polytechnique, qui dialoguera avec Roger Guenry sur le thème gouvernance, marché et mondialisation, lui étant, Claude Henry, un spécialiste des problèmes de propriété intellectuelle et d'analyse du climat. Voilà, je ne souhaite pas faire une introduction plus longue, parce que je pense que ce qui est important, c'est de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc, je donne tout de suite la parole à Mireille Delmas-Marty pour intervenir, 35 minutes environ, sur le thème gouvernance et état de droit.
Merci. Merci.
Appuyez sur le bouton vert, Mireille. Non, vert en bas. En bas.
Voilà. Donc, gouvernance et état de droit, eh bien, en fait, c'est le grand défi à l'heure actuelle posé par la mondialisation. Comment gouverner sans gouvernement? Comment instaurer un état de droit sans état? La question est posée par la mondialisation parce que les interdépendances se sont développées à ce point que la plupart des grands débats de société appellent des réponses juridiques et judiciaires, mais aussi politiques et économiques, à la fois nationales et internationales. Il suffit de penser au débat sur le développement durable ou de la lutte contre la pauvreté, la protection de la santé, de l'environnement, de la biodiversité, plus largement la protection de la sécurité et de la paix. Tout cela appelle des réponses à la fois nationales et internationales. Alors c'est ainsi que s'est affirmée depuis une quinzaine d'années la nécessité d'associer gouvernance mondiale et état de droit. Le concept d'état de droit est inscrit dans toute une série de textes internationaux, que ce soit au niveau régional, l'Union européenne par exemple, ou au niveau mondial, les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce. Le concept d'état de droit est devenu un véritable standard auquel tout État serait tenu de se conformer. Il y a des effets positifs qui sont repérables, par exemple sur les évolutions juridiques en Europe ou même en Chine, depuis l'entrée de la Chine à l'OMC. Mais il ne faut pas sous-estimer les résistances politiques nationales. Je parlais il y a un instant de la Chine, la frénésie législative que connaît la Chine ne suffit pas à garantir un véritable état de droit. Un état de loi n'est pas forcément un état de droit. Il ne faut pas non plus sous-estimer le risque d'instrumentalisation du concept d'état de droit au profit d'une politique d'hégémonie qui serait conduite par les puissances dominantes. Alors, dans ce cas, au lieu de contribuer à la pacification des relations internationales, l'état de droit tend au contraire à légitimer l'usage de la force. Et puis, il s'ajoute une difficulté propre à la mondialisation, car imposer l'état de droit au niveau national n'a de véritable sens que si la contrainte pèse aussi sur les institutions internationales, en réduisant donc leur autonomie précisément au nom du droit. Et c'est ainsi que la plupart des réformes institutionnelles ou des débats sur de futures réformes invoquent le concept d'état de droit, qu'il s'agisse bien du tout nouveau traité européen signé hier à Lisbonne, qu'il s'agisse de la réforme de l'ONU et des institutions financières mondiales, des débats sur l'avenir de l'OMC, qui ont été conduits notamment pour le 10e anniversaire en 2005, ou des débats dans un tout autre domaine sur l'avenir de la justice pénale internationale. Seulement, la signification de ce concept d'état de droit reste ambiguë à l'échelle internationale. Car loin de consacrer la fameuse séparation des pouvoirs qui fonde les deux piliers de l'état de droit, que sont la légalité et la garantie judiciaire, eh bien, les pratiques internationales s'accompagnent au contraire d'une certaine confusion des pouvoirs. Le pouvoir législatif, il est le plus souvent exercé par les gouvernements, donc pas que l'exécutif. Le pouvoir judiciaire, en revanche, est très stimulé par l'émulation entre les juges nationaux et les juges internationaux. Les juges sont émancipés du cadre législatif interne par l'intégration directe d'un droit international qui est souvent imprécis, ce qui leur donne une marge d'interprétation très large, ce qui fait que le pouvoir ou l'autorité judiciaire tend à empiéter sur le pouvoir législatif. On parle volontiers de gouvernement des juges. Quant aux droits de l'homme, qu'on présente généralement comme le socle de l'état de droit, ils ne pourront pas jouer ce rôle au plan mondial tant qu'ils resteront considérés comme sectoriels. On considère que les traités sur les droits de l'homme en droit international sont des traités sectoriels, ce qui veut dire que les droits de l'homme restent séparés des autres secteurs, que ce soit le droit du commerce, le droit de l'environnement, du travail, de la santé, etc. Alors, dans le cadre actuel, qui n'est ni purement national, ni purement international au sens d'interétatique, mais qui est simultanément national, inter, trans et supranational, soumettre les pouvoirs au droit, ce qui est la raison d'être de l'état de droit, implique une organisation complexe qui puisse fonctionner à différents niveaux, national, régional, mondial, qui puisse inclure l'ensemble des acteurs, acteurs étatiques ou interétatiques, mais aussi acteurs non étatiques, et qui puisse finalement ordonner les différents secteurs du droit. C'est pourquoi un état de droit mondial ne peut être conçu que sous la forme, je dirais, d'un monstre juridique, un monstre engendré par une sorte d'hybridation des méthodes de la gouvernance et de l'état de droit. À la gouvernance, il s'agit d'emprunter l'art de coordonner, c'est-à-dire d'organiser les relations entre les acteurs étatiques et non étatiques qui participent à l'exercice des pouvoirs. Mais pour garantir sa légitimité et pour assurer son effectivité, le monstre devra s'inspirer aussi des méthodes de l'état de droit pour tenter de subordonner, et ce sera sans doute le plus difficile, les pouvoirs à des principes de droit. Alors, ce que je propose de faire avec vous, c'est d'explorer tour à tour ces deux voies, coordonner, subordonner. Gouverner sans gouvernement, c'est d'abord, en effet, coordonner les relations entre les acteurs. Mais la transposition ne va pas de soi de la gouvernance d'entreprise, qui est empruntée au droit des sociétés, aux pratiques nationales dites de bonne gouvernance imposées par les institutions financières dans les années 90, puis à la gouvernance mondiale, entendue par le Conseil d'analyse économique dans un rapport de 2002, comme un appareil de production de normes et d'intervention publique qui permet de réfléchir à la façon dont l'économie mondiale est gouvernée dans un monde qui reste politiquement divisé. Si la transposition suscite des interrogations, c'est que le passage du champ économique, la façon dont l'économie mondiale est gouvernée, au champ politique, un monde politiquement divisé, et au champ juridique et judiciaire, cela appelle une réorganisation des pouvoirs dont les modalités restent imprécises. Il est vrai sans doute que la gouvernance est devenue ce que Pascal Lamy avait appelé il y a quelques années le lieu commun du vocabulaire politique mondial, mais la signification du terme reste fluctuante. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, la Commission sur la gouvernance mondiale, qui avait été créée au sein des Nations Unies, a popularisé l'usage du terme dans son rapport publié en 1995. Mais elle aborde encore la question de la souveraineté des États et de la réforme des institutions des Nations Unies de façon assez classique, à partir de relations de type internationale, interétatique. En revanche, le livre blanc de la Commission européenne, intitulé « Gouvernance européenne », qui a été diffusé en 2002, propose plus ouvertement un changement de méthode. Je cite un passage très significatif de ce changement. « Le modèle linéaire, dit la Commission, consistant à décider des politiques au sommet, doit être remplacé par un cercle vertueux basé sur l'interaction, les réseaux et sur une participation à tout niveau de la définition des politiques jusqu'à leur mise en œuvre. » Alors, vous voyez le changement, interaction, réseau, niveau, c'est une méthode qui évoque moins la séparation des pouvoirs que la répartition des compétences entre les différents acteurs institués, les gouvernements, les parlements nationaux, les institutions internationales, et puis qui évoque aussi la participation de la société dite civile, c'est-à-dire des acteurs non institués. Au fond, on a là les deux aspects de cette coordination qui caractérise la gouvernance. Alors, la répartition des compétences entre les acteurs institués, étatiques et interétatiques, relève du statut des organisations internationales. Un statut qui est d'autant plus complexe que les compétences sont inégalement transférées au plan régional et au plan mondial. On le voit bien en matière économique, où les effets de stabilisation du marché et d'allocation des ressources sont partiellement transférés à l'échelle mondiale, alors que les effets de redistribution restent très limités. Mais on le voit aussi dans le champ juridique. La force exécutoire reste garantie pour l'essentiel par les États. En revanche, les compétences législatives et judiciaires sont en partie transférées, mais transférées avec des dissymétries, notamment entre droits sociaux et droits économiques. Et quand le transfert de compétences est prévu, il implique plusieurs modalités. Il implique tantôt la primauté de la sphère internationale, c'est la compétence exclusive qui, par exemple en Europe, dans certains secteurs, est donnée à la Commission. Mais tantôt, c'est simplement la subsidiarité, c'est-à-dire la compétence partagée. Le principe de subsidiarité qui est défini dans les traités européens de la façon suivante, l'Union intervient seulement si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée au niveau de l'Union. Donc c'est seulement cette inaction des États, par impuissance ou par manque de volonté, qui entraîne le transfert au niveau international. Alors cette subsidiarité, elle est contrôlée en Europe par les juges des deux cours européennes, et ce principe est donc devenu l'une des composantes de l'organisation européenne. Mais il apparaît aussi dans d'autres ensembles normatifs. Il apparaît dans l'organisation de la justice pénale internationale, celle qui est habilitée à juger les crimes internationaux, comme le crime contre l'humanité ou le crime de guerre. Car la Cour pénale récemment créée, elle est entrée en fonction en 2002, a une vocation mondiale et elle peut exiger la participation active des États. La coopération des États est imposée à eux par le statut de la Cour. Mais pour que cette Cour mondiale juge une affaire pénale, elle doit démontrer, elle devra démontrer que l'État normalement compétent ne peut ou ne veut juger lui-même. C'est ce qu'on appelle la complémentarité, qui en réalité est un principe de subsidiarité. Enfin, dans un tout autre domaine qui est celui du commerce, le rapport Sufferland sur l'avenir de l'OMC, publié en 2005, abordait la question de la subsidiarité au chapitre de la souveraineté, mais en restant assez vague sur les modalités concrètes de sa mise en œuvre. Je ne sais pas si Pascal Lamy nous en parlera tout à l'heure. Cela dit, la gouvernance ne se limite pas aux institutions, car ce sont bien souvent les membres de la société civile qui, par leurs initiatives, sont les véritables inventeurs, les véritables moteurs de la mondialisation. Alors, organiser la participation de la société civile, c'est l'autre objectif de la gouvernance mondiale. Car les relations avec les institutions restent souvent des relations informelles, voire des épreuves de force, certains acteurs allant jusqu'à utiliser des moyens illégaux ou même violents, plutôt que des relations de droit. D'où la nécessité de préciser les conditions de la participation des acteurs non étatiques à l'exercice du pouvoir législatif et parfois judiciaire. Alors, ces acteurs non étatiques, c'est qui ? Bien sûr, les entreprises multinationales, mais également les experts. Pensez au rôle des experts du GIEC à propos du changement climatique, groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pensez au rôle des conférences de citoyens, devenues conventions de citoyens dans certains secteurs liés aux biotechnologies, au rôle des organisations non gouvernementales plus largement et des syndicats. La société civile, par ses différents canaux, a commencé à jouer un rôle actif et parfois déterminant dans l'élaboration de dispositifs extrêmement différents, par exemple la création d'un centre international pour le règlement des différends liés aux investissements, c'est le CIRDI. Autre exemple, tout à fait dans un autre domaine, le protocole de Kyoto sur les changements climatiques. Autre exemple, la Convention de Rome créant cette Cour pénale internationale dont j'ai parlé. La participation de ces acteurs très divers supposerait plusieurs conditions. D'abord, des conditions de légitimité, car ces acteurs représentent des intérêts privés, dont rien ne prouve qu'il s'identifie spontanément, naturellement, à l'intérêt général. La question est particulièrement visible quand il s'agit des opérateurs économiques. Le risque de conflit d'intérêts apparaît néanmoins aussi à propos des autres acteurs, à propos des acteurs civiques comme les ONG, ou même à propos des acteurs scientifiques, les experts. Et même le simple citoyen qui participe aux conférences de citoyens ou qui devient citoyen reporter sur Internet peut être pris dans un conflit d'intérêts. D'où l'importance de principes comme la transparence et le pluralisme qui pourraient être appliqués tant aux entreprises multinationales qu'au statut des experts et des ONG, voire à celui des futurs citoyens du monde. Et puis, il faut penser aux conditions d'effectivité, car les différents types d'intervention de la société civile auprès non seulement du législateur, mais des tribunaux, devraient être précisés. La société civile intervient tantôt comme partie principale, tantôt comme titulaire d'une action jointe, d'une action collective jointe, tantôt comme amicus curiae, ami de la Cour qui fait valoir auprès de la Cour des éléments d'information. Cela étant, même si on fait cet effort d'encadrement de la participation de la société civile, la coordination ne suffira pas. Elle peut contribuer à une organisation, je dirais, plus fluide et plus démocratique de la société internationale, mais la clé de l'état de droit reste de subordonner les pouvoirs à des principes de droit. Alors, subordonner les pouvoirs à des principes de droit, c'est plus facile à dire qu'à réaliser. Les transferts de compétences qui accompagnent la mondialisation appelleraient en effet à transposer au niveau international les deux principes qui conditionnent la validité juridique. Un principe de cohérence qui fonde la légitimité sur des valeurs communes, partagées, et puis un principe de responsabilité qui assure l'effectivité de la mise en œuvre. Alors qu'en est-il avec la mondialisation ? Principe de cohérence, il appelle une boussole pour orienter la gouvernance et permettre de hiérarchiser les choix de valeurs en indiquant où vont les préférences collectives. Et au fond, on a à première vue une boussole avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, explicitée par les deux pactes des Nations unies sur les droits civils et politiques, les droits économiques, culturels et sociaux, et par les innombrables instruments qui ont suivi. À première vue, on tient là une boussole, d'autant que les textes se sont multipliés et que l'on peut constater la montée en puissance des droits de l'homme, notamment au sein de la jurisprudence des cours régionales européennes, interaméricaines et africaines qui vient d'être créée, qui n'a pas encore commencé vraiment à fonctionner. À propos de la Cour européenne, j'étais très frappée il y a quelques années par la réaction d'un de mes étudiants chinois. Nous avions monté un programme de formation de juristes chinois au droit en Europe qui était accueilli à l'Université de Paris 1 et les étudiants restaient environ une année. Ils faisaient des stages à cette occasion dans les institutions de l'Union européenne et ils faisaient également 15 jours de stage auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, au moment où on a fait l'évaluation de leur programme de formation, je me souviens d'un étudiant qui m'avait dit « Vous savez, madame, en arrivant en Europe, je détestais, nous détestions, les autres avaient l'air d'opiner, nous détestions les droits de l'homme. » Et il me dit ça avec un grand sourire pour ajouter qu'ayant visité la Cour européenne des droits de l'homme, il avait compris que leur analyse était fausse parce qu'ils détestaient les droits de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'ils y voyaient un discours idéologique inventé pour critiquer la Chine. Alors qu'à Strasbourg, ils avaient compris qu'on ne parlait jamais de la Chine, c'était les États européens qui étaient les uns après les autres mis sur la sellette et parfois condamnés. Et ils avaient compris que le droit des droits de l'homme permet de construire un raisonnement juridique. Ce n'est pas seulement un discours idéologique, c'est un raisonnement qu'on peut opposer à l'État devant un juge. Le problème, c'est qu'à l'échelle mondiale, il n'y a pas de Cour mondiale des droits de l'homme. Il serait donc urgent que se consolide le tout nouveau Conseil des droits de l'homme, car cette absence de Cour fragilise le rôle des droits de l'homme au sein de la société internationale, qu'il s'agisse des pratiques des États ou des organisations internationales elles-mêmes. Alors, du côté des États, ils ont ratifié la plupart des conventions, mais de façon sélective. Par exemple, la Chine a ratifié le pacte sur les droits économiques et sociaux, mais pas sur les droits civils et politiques. Les États-Unis ont fait l'inverse. Et puis, ils ont souvent formulé des réserves qui limitent la portée de leur engagement. En outre, on sait bien que depuis les attentats du 11 septembre 2001, l'impact n'a pas été tellement de renforcer l'universalisme des droits de l'homme, mais tout au contraire de déclencher un processus de renationalisation symbolisé par le mot d'ordre lancé par le gouvernement américain et repris par de nombreux pays, démocratiques ou pas, le mot d'ordre de guerre contre le terrorisme. Car c'est une formule qui, en l'absence de contrôle juridictionnel supra-étatique, permet en réalité de légitimer, au nom de la sécurité nationale, de graves violations des droits de l'homme et qui donc risque de renforcer la défiance à l'égard de ces droits perçus comme instrument d'hégémonie. Défiance aussi, parfois, en ce qui concerne les institutions internationales, en raison du cloisonnement normatif, de la fragmentation des secteurs de la mondialisation. Qu'il s'agisse des institutions financières qui ne s'estiment pas tenues par les pactes des Nations Unies, ou qu'il s'agisse des juridictions pénales internationales qui citent les textes sur les droits de l'homme et parfois la jurisprudence des cours régionales, mais qui refusent jusqu'à présent de se considérer comme liées par les instruments de protection des droits de l'homme. Cela étant, des réponses sont néanmoins envisageables. La Cour pénale internationale devrait à terme s'estimer liée par son statut, car à la différence du statut des tribunaux, le statut de la Cour lui impose d'interpréter les textes pénaux de façon compatible avec les droits de l'homme internationalement reconnus. Il restera à savoir ce qu'on met derrière, c'est une formule aussi vague et aussi large. Il y a aussi probablement une réponse possible du côté de l'OMC. L'OMC pourrait montrer la voie en créant des synergies avec d'autres ensembles normatifs, comme le droit de l'environnement, ou d'autres organisations, comme l'Organisation internationale du travail pour les normes sociales, l'Organisation mondiale de la santé, dans le domaine de la santé. Il me semble qu'en décidant tout récemment, le 1er décembre, de prolonger de 2 ans le délai de ratification de l'amendement à l'ATPIC, l'accord sur les droits de propriété liés au commerce, qui permet cet amendement de déroger au droit des brevets pour faciliter aux pays pauvres l'accès aux médicaments, eh bien, l'OMC reconnaît déjà l'importance de la société, de la santé comme bien mondial. Ce qui fait que sans attendre la consécration d'une véritable hiérarchie qui serait fondée sur les droits de l'homme, le principe de cohérence pourrait inciter à explorer d'autres voies, comme celle des biens publics mondiaux. Même si l'on se heurte alors, et nous le verrons demain puisque la journée est consacrée à ce thème, à la difficulté de transposer dans le champ juridique et politique un concept qui est déjà très discuté dans le champ économique et qui semble problématique du point de vue anthropologique. Alors, à supposer qu'on réussisse malgré tout à légitimer la construction d'un état de droit mondial autour d'une cohérence en gestation, il resterait à en garantir l'effectivité. D'où l'importance du second principe, le principe de responsabilité. Le principe de responsabilité incite à reconnaître que la détention d'un pouvoir d'échelle globale, pouvoir au sens très large, qu'il soit politique, économique, scientifique, médiatique, religieux ou culturel, la détention d'un tel pouvoir implique le corollaire d'une responsabilité globale. Alors, la simplicité apparente de cette proposition ne doit pas faire illusion. Il s'agit de l'une des questions juridiques les plus obscures, car le thème de la responsabilité est éclaté entre diverses branches du droit, selon qu'il s'agit des États ou des acteurs non étatiques. Et c'est là que l'hybridation entre gouvernance et État de droit sera sans doute le plus difficile à mettre en œuvre. Alors, en ce qui concerne les États, il y a des années que la communauté internationale essaye de dégager des règles qui permettraient de codifier leurs responsabilités. Elle n'a pas encore abouti. Les premiers travaux remontent à 1930, vous voyez la durée de ces travaux. Et on compte depuis 1963 plus de 20 rapports de la Commission du droit international de l'ONU. Finalement, le dernier projet a été adopté par la Commission en août 2001 et recommandé au gouvernement par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de décembre 2001. Il resterait à transformer la résolution en convention pour contraindre les États. Mais déjà en soi, le fait d'avoir une résolution, même si elle laisse en partie irrésolue la question des contre-mesures en cas de responsabilité, c'est déjà une étape importante. Pourquoi ? Parce que cette responsabilité dans la résolution de l'ONU se fonde sur l'expression des violations graves d'obligations découlant des normes impératives du droit international régional, ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance d'un ordre public international par cette formule. Alors, en attendant une très hypothétique convention, je dis très hypothétique parce que les États préfèrent s'en tenir au cadre bilatéral qui est déjà admis, c'est-à-dire limiter la responsabilité au cas opposant un État auteur à un État victime, mais en attendant, la responsabilité mondiale des États, actuellement, peut seulement être mise en cause en matière commerciale, devant l'organe d'appel de l'OMC. Quant à la responsabilité mondiale des États pour violation des droits de l'homme, eh bien, elle se limite, je le répète, à la jurisprudence des cours régionales, car les instances de l'ONU n'ont pas de pouvoir juridictionnel. Alors, bien sûr, il y a la Cour internationale de justice, mais elle a une conception très modeste et très limitée de son rôle. On l'a vu en février 2007 dans l'affaire du génocide bosniaque, où la Cour internationale a reconnu le génocide, mais n'a pas reconnu la responsabilité de la Serbie. Cela étant, la construction d'un État de droit mondial ne saurait se limiter aux seuls États. Vu ce que je viens de dire sur le rôle croissant des acteurs non étatiques, il est nécessaire aussi que leurs responsabilités soient simultanément reconnues, alors reconnues par des juridictions pénales ou civiles. Il est donc nécessaire qu'apparaisse dans la sphère juridique un concept de responsabilité universelle ou globale des acteurs non étatiques. Or, un tel concept n'a pas la même signification ni la même portée selon que le juge compétent pour reconnaître cette responsabilité universelle ou globale est le juge national ou le juge international. Devant le juge international, eh bien, on a maintenant les tribunaux pénaux et la Cour pénale internationale qui permet la poursuite des crimes internationaux, que l'auteur soit un individu ordinaire ou le dirigeant ou ancien dirigeant d'un État. Dans ces cas-là, la poursuite est exercée au nom de la communauté internationale dans son ensemble et, en ce sens, il s'agit d'une responsabilité à vocation universelle. Mais comme vous le savez bien, beaucoup d'États, de grands États, les États-Unis, la Chine, l'Inde, ont refusé de ratifier la convention créant cette Cour pénale internationale. Donc, le potentiel est universel, mais la réalité ne l'est pas. Alors, il y a l'autre voie qui consiste à aller devant les tribunaux nationaux. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle au sens strict du terme, reconnue au juge national. Mais cette voie-là, elle reste assez problématique. Il faut dire qu'elle était défendue très tôt, au XVIIe siècle, par Grotius, au nom du droit de la nature et des gens, et consacrée en matière de piraterie. Mais elle n'avait pas à l'époque vocation, cette responsabilité universelle, cette compétence universelle des juges nationaux, elle n'avait pas vocation à protéger les valeurs universelles, mais simplement à prendre en charge des intérêts communs. C'est seulement à la fin du XXe siècle, donc tout récemment, que l'idée de faire du juge national le gardien des valeurs universelles s'est trouvée relancée. On l'a relancée au coup par coup. Convention sur le génocide, convention sur la torture, atteinte aux conventions de Genève, certains textes sur le terrorisme. Mais c'est une formule qui est très critiquée. Pourquoi critiquée ? Parce que cette forme à vocation universelle est mal encadrée. Le droit international est imprécis et la jurisprudence de la Cour de justice, la Cour internationale, est timorée. Ce qui fait que cette compétence universelle, elle peut parfois être décidée de façon totalement unilatérale par le législateur national. Il y a un exemple connu qui est l'Alien Tort Claims Act, la loi américaine qui remonte à 1789, donc une loi très ancienne, qui donne compétence aux tribunaux américains pour sanctionner par des amendes civiles les violations du droit international, c'est extrêmement vague, commises à l'étranger par des étrangers. Donc il y a bel et bien une compétence universelle des juridictions américaines. Alors cette loi a été un peu tombée en sommeil, elle a été récemment réactivée d'abord contre des dirigeants politiques, puis contre des entreprises multinationales. Et cette utilisation récente de la vieille loi de 1789 a été validée en 2004 par la Cour suprême des États-Unis. À l'occasion d'ailleurs du débat devant la Cour suprême, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des mémoires d'amicus curiae, d'amis de la Cour, produits par un certain nombre de pays, dont la communauté européenne, comme si ces intervenants se disaient « il y a peut-être une occasion là » de tenter de dégager ensemble les fondements d'une future responsabilité civile universelle. Par ailleurs, une partie de la doctrine des juristes propose déjà d'étendre la responsabilité civile universelle, d'en faire une responsabilité non seulement pour faute, violation grave des droits de l'homme, mais pour risque majeur. De telles initiatives appellerait à l'évidence un minimum d'harmonisation. Alors, cette harmonisation n'est pas totalement utopique, elle est possible, elle est même envisageable, par exemple en utilisant les principes qui sont actuellement en cours d'élaboration aux Nations Unies, qui sont partis de la sous-commission des droits de l'homme, qui sont repris dans le contexte actuel des Nations Unies, principe de responsabilité des sociétés transnationales en matière de droits de l'homme. Il y a là une source d'harmonisation qui éviterait que chaque État s'auto-instaure titulaire d'une responsabilité universelle et donne une telle compétence à ses propres juges. Alors, en conclusion, je ferai quelques remarques pour faire le lien avec la suite de notre journée. Je dirais que par leur foisonnement même, les pratiques juridiques et judiciaires qui sont nées de la mondialisation montrent qu'il est sans doute possible de combiner l'art de coordonner, emprunté à la bonne gouvernance, et celui de subordonner, inspiré de l'état de droit national. Il reste à savoir si le monstre est viable. Alors là, on peut craindre que la gouvernance mondiale se contente d'une conception minimale de l'état de droit, ce que certains ont déjà fait remarquer. Le risque est de limiter la cohérence à la protection de quelques droits, les quelques droits qui seraient particulièrement nécessaires à l'économie de marché. Le risque est aussi de renvoyer les responsabilités au bon vouloir des États. Donc, finalement, d'aboutir à une double impuissance, l'impuissance d'un ordre juridique mondial qui ne serait opposable ni aux États, ni aux acteurs non étatiques. Alors, que faire pour que le monstre soit viable ? Peut-être faut-il tenter de transposer la notion de puissance publique dans cet espace mondial sans État, ou alors faut-il plus largement chercher la réponse à l'interface du champ juridique et des autres champs politiques et économiques. Vous avez reconnu le programme de notre journée, puisque ce sont là les questions que nous allons explorer ensemble tout au long de la journée. Merci.